Bienvenue, étranger. Entre et viens te restaurer. Tu nous diras plus tard ce qui t'amène. C'est ainsi que Télémaque accueille le prince qui se présente ce matin à la porte du palais. Il ne le connaît pas, mais applique les lois sacrées de l'hospitalité. En Grèce, on doit toujours accueillir sous son toit l'étranger de passage. Pourtant, personne ne semble s'être soucié de lui, alors que des dizaines de serviteurs s'agitent en tous sens, occupés à servir du vin et des viandes rôties à une ribambelle de fêtards affalés dans toutes les pièces. Ils n'ont même pas remarqué le nouveau venu. Télémaque fronce les sourcils, indigné, et s'empresse de réparer cette grossièreté. Et puis, tout visiteur qui accoste sur l'île d'Ithaque a pu croiser son père. Qui sait ? Le jeune homme compte bien le questionner à son sujet. Il le décharge de sa lance et lui offre un fauteuil confortable. Tandis qu'il range l'arme de son invité, il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil aux lances d'Ulysse sagement alignées contre une colonne. Personne ne les a touchées depuis bientôt 20 ans, depuis que son père a disparu de sa vie. Le visiteur ne dit pas un mot. Il observe autour de lui. Une nuée d'hommes se laisse servir à boire et à manger. Ils tendent les mains avec avidité. Ils parlent fort, crient, chahutent. On dirait qu'ils sont chez eux dans le palais d'Ulysse. Un musicien se met à jouer de la cithare et à chanter. Des danseuses arrivent. Le festin ressemble bien vite à une orgie. Télémaque, qui s'est assis tout près de son invité, est bouillant de colère. Il lui murmure à l'oreille. « J'espère que tu ne m'en voudras pas de te parler franchement, mais regarde-les, ces parasites. Ils se goinfrent des biens de mon père, ne se préoccupent que de jouer, chanter et danser. Et ça dure depuis des années. Ils auront bientôt vidé toutes ses réserves. Ah, si Ulysse revenait, tu les verrais décamper à toutes jambes. » Puis, secouant la tête comme pour chasser cette pensée, il ajoute d'un ton sans appel. « Mais mon père est mort, et bien mort. Il ne reviendra jamais. Parlons plutôt de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Est-ce ta première visite ici? As-tu déjà été l'hôte du roi d'Ithaque ?» L'étranger porte une courte barbe frisée et ses yeux luisent avec une intensité peu commune. Si Télémaque avait déjà croisé la déesse Athéna, il aurait pu aussitôt reconnaître ses yeux d'une couleur bleu-vert si caractéristique. Mais c'est la première fois qu'il se trouve en présence de la protectrice de son père, et ainsi caché sous cette apparence masculine, il ne la reconnaît pas. D'autant que la déesse de la sagesse et de la guerre se présente sous le nom de Mentès, fils du roi de l'île de Taphos, et qu'elle affirme très bien connaître son père. Télémaque est suspendu à ses lèvres. Il s'approche d'elle pour être sûr de bien entendre ses paroles malgré le brouhaha, car ce qu'elle dit le bouleverse profondément. « Tu te trompes, Télémaque. Ton père est vivant. Il est retenu prisonnier contre son gré sur une île. Je m'étais mis en route pour venir le voir, car je croyais qu'il avait réussi à échapper aux brutes qui le retiennent. Je vois qu'il n'en est rien. » À ces mots, le jeune homme se lève d'un bond. « Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela, étranger ?» Athéna sourit et lui pose une main apaisante sur le bras. « Rassieds-toi, impétueux jeune homme, et écoute-moi. Je ne suis ni devin ni prophète. Simplement, les dieux sont venus me rendre visite dans mes songes. Ils m'ont parlé et j'ai appris que même retenu par les chaînes de fer les plus solides, ton père est un homme rusé. Il saura s'en libérer pour te retrouver. » Télémaque est devenu très pâle. Il baisse le front, fixe ses pieds, lèvres closes. Garde-t-il le silence par respect pour son invité, ou bien est-il trop troublé pour s'exprimer ? Athéna saisit doucement son menton entre les doigts et lui relève la tête. « Comme tu lui ressembles, » murmure-t-elle sans le lâcher. « Tu as la même tignasse bouclée et les mêmes yeux bleus que lui. » Ils sont couleur de la mer lorsqu'elle est en colère. Tu sais, j'ai beaucoup fréquenté ton père autrefois, même si je ne l'ai plus jamais revu depuis qu'il est parti guerroyer à Troie. Télémaque se détache de la main d'Athéna en haussant les épaules. Mon père ? De quel père parles-tu ? Ma mère prétend que je suis le fils d'Ulysse. Mais qu'est-ce qui me le prouve ? Moi, je n'ai aucun souvenir de lui. Il nous a quittés, j'étais un bébé. Sa voix tremble légèrement. Il poursuit presque dans un sanglot. J'ai grandi sans père. Si c'est bien Ulysse qui m'a engendré, dans ce cas, il ne se soucie guère de moi. L'amertume du jeune homme émeut Athéna. Rien d'étonnant qu'il se sente abandonné par un père envolé depuis si longtemps. Et comment le convaincre, sans preuve, que l'exil d'Ulysse est un exil forcé ? Pour détourner un peu son chagrin, elle le questionne soudain. « Mais dis-moi, qui sont tous ces hommes occupés à ripailler sous ton toit ? À quelle fête assistons-nous ? S'agit-il d'un mariage ?» Télémaque jette un regard noir de dédain autour d'eux. Son émotion est chassée par la colère. « Ces porcs imbéciles ! Ce sont les fils des familles nobles d'Ithaque et des îles alentour. Leurs parents ont payé pour affréter les 12 navires avec lesquels Ulysse est parti à la guerre. Il était donc d'usage que leur progéniture soit accueillie dans la maison. Cependant, cela dure depuis 20 ans. Ce ne sont plus de jeunes gens. Ils continuent leur vie d'oisiveté au crochet des réserves du roi. Et tu sais ce qu'ils espèrent désormais ? Prendre la place de mon père dans le lit de ma mère. » Athéna, ulcérée, demande « Qu'en dit Pénélope ?» Elle fait tout pour éviter de se remarier, mais elle n'a pas la force de les chasser, soupire Télémaque. Tu le vois bien ici, tout le monde, à part elle, a oublié mon malheureux père. Il n'a même pas eu les honneurs de mourir en héros sous les murailles de Troie. Il a disparu corps et biens, et ses os blanchissent anonymement au fond des mers. Il n'est déjà plus personne. C'en est trop pour Athéna. Elle quitte son siège si violemment qu'elle renverse la table dressée devant elle, en voyant rouler au sol le pain, les fruits, le vin et la jolie vaisselle en or contenant viande rôtie et autres victuailles finement cuisinées. Nul serviteur ne se précipite, tant il est coutumier dans cette demeure que les assiettes sales et déchets de repas traînent un peu partout sur le dallage. Télémaque, surpris par cette vive réaction, se lève à son tour. C'est d'un ton presque sévère qu'Athéna s'adresse à lui. « Je te l'ai déjà dit, Télémaque, Ulysse est vivant. Mais il dépend des dieux désormais qu'il revienne et se venge ou ne revienne pas. Alors toi, tu vas rester ici sans rien faire ? Qu'est-ce qui te retient de chasser tous ces prétendants de ta maison ? Et pourquoi ne prends-tu pas la mer à ton tour afin de partir au-devant de ton père ? Il faut que tu ailles t'enquérir de ces nouvelles au lieu d'attendre ici les bras ballants. Tu le penses mort ? Je te l'annonce vivant. Pars le chercher. Au moins, tu en auras le cœur net. Télémaque, sois courageux. Tu n'es plus un enfant. » Sitôt cette tirade tonitruante prononcée, Athéna prend congé de son hôte et part, malgré les protestations du jeune homme. « Laisse-moi au moins t'offrir un présent, » lui crie Télémaque en la suivant sur le seuil. « Tu me le donneras la prochaine fois, quand je reviendrai, » répond Athéna. La nuit vient de tomber. Un instant, Télémaque regarde la silhouette de son invité qui s'éloigne à grands pas du palais. La lourde lance de bronze qu'il a reprise avant de sortir étincelle sous les éclats de la lune. Sa cape ondule sous les rafales du vent. On dirait qu'il s'envole, telle une mouette, planant au-dessus des flots. Le fils d'Ulysse se dit tout à coup que cette visite a des allures surnaturelles et que, sans nul doute, il vient de rencontrer un dieu ou une déesse. « Peu importe qui est venu me parler, » songe-t-il, « mais ses paroles résonnent en moi. Il m'a donné force et courage. » Il lève la tête vers la façade du palais. Au premier étage, une fenêtre s'éclaire doucement. Une forme se détache de l'ombre à la lueur d'une lampe à huile. Il reconnaît la silhouette de sa mère, penchée sur son métier à tisser, et il sourit. Puis il regagne lentement le palais. À l'intérieur, la fête bat son plein. Un aède chante et il compte les exploits des guerriers achéens sous les remparts de Troie. Du haut de sa chambre, Pénélope l'entend, et elle est au supplice. Comment écouter le récit de la guerre de Troie sans que son cœur se brise? Cette guerre cruelle qui lui a arraché son époux à jamais. Elle rabat son voile sur son visage et descend l'escalier, le souffle court. Aède, ô Aède, je t'en supplie, tais-toi, demande-t-elle haletante. Ou plutôt non, chante, mais je suis sûr que tu connais bien d'autres récits qui mêlent les aventures des hommes et des dieux. Par pitié, épargne-moi le siège de Troie. Je pleure mon mari, je suis inconsolable de sa disparition, tu le sais bien. Comme sa douleur est émouvante, se dit Télémaque en entendant sa mère, plutôt Dieu que mon hôte mystérieux ait raison. Car elle est bien la seule aujourd'hui à entretenir vivante la mémoire de mon père. Sans elle, et sans son retour rapide, Ulysse va sombrer dans l'oubli. Cette nuit-là, le sommeil fuit Télémaque. Sa chambre est la plus haute du palais, avec une vue dégagée sur l'horizon. Accoudé à la fenêtre, ses yeux interrogent l'obscur océan qui clapote à ses pieds. Sa vieille nourrice, Euryclée, qui fut aussi la nourrice de son père, l'a accompagnée comme chaque soir jusqu'à son lit. Elle l'a aidée à se dévêtir. Ses gestes lents et doux trahissent l'immense amour qu'elle lui porte. Elle l'a serré fort dans ses bras, peut-être un peu plus fort que d'habitude, comme si elle avait deviné. Et puis elle est repartie, emportant avec elle sa torche. Resté seul dans le noir, Télémaque a jeté sur ses épaules une peau de mouton. Maintenant, il guette l'obscurité, cherchant à deviner le chemin de son futur voyage dans la trace des étoiles. Car depuis le départ d'Athéna, Télémaque sait ce qui lui reste à accomplir. Ah, si j'avais su que mon fils partait à ma recherche, j'aurais été moins malheureux. Mais à ce moment-là, j'étais perdu sur une île inconnue, seul au monde. Enfin, presque seul. La nymphe Calypso m'avait accueilli chez elle. Je devrais plutôt dire recueilli et sauvé, car tout mon équipage avait été décimé dans des conditions dramatiques que je te raconterai plus tard. J'étais arrivé sur les rivages de son île, pauvre naufragé accroché à un bout d'épave, et c'est elle qui m'avait soigné. Je l'avoue, elle était si belle, si bonne avec moi, que je me suis laissé aimer avec joie et soulagement. Au fond, j'étais persuadé que plus personne ne se souvenait de moi à Ithaque, que j'étais tombé dans l'oubli. J'ai du mal à croire aujourd'hui que je suis resté aussi longtemps dans ses bras. 7 longues années. Au début, je m'y abandonnais avec délice. Peu à peu, je me suis lassé d'elle et de ses charmes. Et le mal du pays est devenu lancinant. Je brûlais de retrouver ma femme, mon fils et mon île. Mais j'étais prisonnier de cette beauté qui m'avait sauvé. C'est alors que les dieux sont intervenus en ma faveur. Surtout Athéna, bien sûr, ma protectrice.